Je ne vais pas parler maintenant de la musique parce que ce soir nous aurons une petite veillée sur le Père Marie-Joseph et le chant, donc je me réserve un petit peu pour ce moment-là. Je veux simplement, comme il me l'a été demandé, de vous donner un tout petit témoignage comme fils spirituel du Père Marie-Joseph, comme un enfant qui a grandi ici dans cette fraternité. Je suis tellement heureux de la retrouver. Témoignage tout simple d'un de vous, voilà, d'un de vos frères, qui a eu la joie effectivement de connaître le Père Marie-Joseph. Alors, quand j'ai découvert la fraternité, j'avais à peu près 10 ans. Et donc c'est un peu avec un regard d'un enfant de 10 ans, si vous voulez, que j'ai découvert la figure du Père Marie-Joseph. Alors je voudrais un petit peu commencer par là, finalement, qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là? Et ensuite dire un peu voilà, en quoi il a été pour moi un maître de vie spirituelle. La rencontre avec le Père Marie-Joseph s'est faite à travers une constellation de petites choses. Je ne l'ai peut-être pas rencontré directement lui, mais je l'ai rencontré à travers des choses que je voyais vivre dans cette fraternité, mais qui me parlaient déjà de son charisme. Et je vais voilà, passer un peu en revue ces quatre petites choses que je retiens. La première, c'est la joie de mes parents. Alors, là, je m'inscris bien dans la ligne du Père Marie-Joseph qui me dit qu'il faut toujours parler de ses parents comme il le faisait. Comme mes parents sont tertiaires, il faut absolument que j'en parle. Et comme il le faisait d'ailleurs lui-même beaucoup. Bon. C'est vrai que... Quand mes parents ont découvert la fraternité, ils sont dans la salle, mais bon, j'ose quand même en parler. On a senti, nous les enfants, qu'ils avaient fait plusieurs expériences ecclésiales, mais qu'ils ne les avaient pas satisfaits. Et que quand ils ont trouvé le Père Marie-Joseph, la fraternité, il y avait une réponse qu'ils ont trouvée là à une question qu'ils portaient depuis longtemps. On a senti, en tout cas moi, j'ai senti une joie, une dilatation intérieure chez eux, et ça a rejailli sur nous. Et ce premier témoignage du Père, pour moi, c'est d'abord la réponse qu'il donnait à la question que portaient mes parents pour vivre une vie spirituelle en famille. Et peut-être que... Enfin, je pense que c'est une expérience que vous avez beaucoup... Enfin, que beaucoup d'entre nous ont fait ici. Hein, cette recherche d'une vie spirituelle pour les familles et cette réponse que donne le Père Marie-Joseph. Voilà. Le deuxième élément, c'est la communion des familles. Se trouver ensemble sur un même chemin de vie évangélique, avec ce même appel à la sainteté, ces mêmes exigences à vivre dans un monde qui n'est pas forcément porteur, ces mêmes défis d'éducation, etc. Vivre en communion tout cela, en complicité. Alors, ça se traduisait très concrètement pour nous, la famille, par à chaque fois qu'on allait à Beach pour la réunion, on terminait toujours chez les Chaumont, Jean-François et Chantal, pour le goûter et pour jouer. Enfin, ça a l'air bête, mais il y avait comme une petite institution, vous voyez, un petit rite. Une fois qu'on avait fini toute la journée à Saint-Conrad, on se retrouvait dans une famille et on échangeait, on laissait décanter, voilà, on laissait librement exprimer la joie qu'on avait vécue aujourd'hui. Si je rappelle ce fait, ce n'est pas bon pour seulement pour Radio Nostalgie, si je puis dire, parce que j'ai bien conscience que cette communion des familles aujourd'hui se vit différemment, vu les nouvelles proportions de la fraternité, mais pour souligner là que nous avons, à mon avis, une dimension essentielle du charisme du Père Marie-Joseph. Faire se rencontrer des familles autour du Christ et les faire cheminer ensemble à la suite de Jésus, dans la grâce de Saint François. Cela peut paraître facile et banal. Des familles se mettent ensemble, elles prient Jésus et elles lisent quelques textes de Saint François. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Les exigences de la sainteté familiale sont tellement profondes, en notre temps, qu'il faut un charisme tout à fait particulier, tout spécial, avec un enseignement précis, avec des mises en œuvre précises, et je pense que c'est la grâce propre du Père Marie-Joseph aujourd'hui. Un autre élément encore de cette découverte de la fraternité à travers mes yeux d'enfant, c'était la prière. Mais toujours pareil, j'ai pas d'abord remarqué peut-être chez lui même, mais chez les membres de la fraternité. La dernière fois que j'ai donné un témoignage comme ça, j'ai parlé de mon chef cordigère qui est Vincent. Mais bon, il l'a déjà entendu, donc je vais changer de victime cette fois-ci. Et comme elle n'est pas là, c'est bien. Quand j'étais je pense mon premier camp cordigère qu'on faisait à Montbrom, pas loin d'ici. Un jour, ça devait être au moment où il n'y avait pas quelque chose d'organisé, donc je me baladais et je passe à côté de la tente chapelle et là je m'arrête parce que je vois une petite fille qui est en train de prier. Et moi, voilà, avec mon âge, bon. Je m'arrête et je suis très impressionné par cette petite fille qui prie, alors que c'est gratuit, et c'était pas le temps de la prière. Et ça reste encore pour moi une expérience étonnante de voir quelqu'un qui prie. Et je pense que c'était Thérèse Chaumont, qui est maintenant la petite sœur Thérèse Myriam, à Assise. M'être arrêté sans savoir pourquoi. Regardez ce rayonnement d'une prière profonde. Et je pense que là aussi, ça m'a parlé du Père Majzel. Je le découvrais à travers ça. Il a une paternité au niveau de la prière. Être père, c'est-à-dire donner la vie et enfanter une vie de prière et la faire grandir. C'est encore quelque chose qui me reste très fort aujourd'hui. Si j'ai un conseil à vous donner, priez, un deuxième conseil, priez, un troisième conseil, priez. C'est quelque chose qui est rappelé souvent. Je suis aussi très impressionné par la manière dont, dans son testament, qu'il a fait tout à la fin de sa vie, on en entendra quelques extraits ce soir, tout son testament est complètement concentré sur l'adoration de Jésus dans l'Eucharistie. Les trois chants qu'il a retenus pour ça, c'est vraiment... Et là aussi, il y a une grâce d'adoration pour les familles, je crois aujourd'hui, chez Père Marie-Joseph. Un autre aspect encore de cette découverte d'un enfant voilà, qui arrive, c'était bien sûr la fête, la joie, les chants, qui se traduisaient dans les messes, dans toute la vie en fraternité. Alors quand on avait 10 ans, quand on était cordigère, cet aspect n'était pas vécu directement avec le Père Marie-Joseph, mais passé par un personnage à la fois attachant et terrifiant, qui s'appelait Misa. Donc, Marie-Louise Arisa, contraction Misa. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous parler de ce personnage où en couleur est très, je crois, très important pour l'histoire de la fraternité. Mais cette dame qui était très proche du Père Marie-Joseph parce qu'elle avait avec lui cette complicité de l'artiste, comment faire qu'une fête soit à la fois simple et belle et grande et profonde. C'était à travers elle, dans les fêtes de fraternité, dans la fête de Noël, qu'il y avait une culture, si je puis dire, de la joie et du chant qui m'a frappé quand je suis arrivé. Voilà donc un petit peu, vous voyez, le visage du Père Marie-Joseph que j'ai découvert à travers la famille, en fait, toute la famille de la fraternité. Cette réponse à l'attente des parents, cette joie, cette prière et puis cette communion des familles. Alors pour rassembler mes souvenirs et vous dire un petit peu comment le Père Marie-Joseph a été pour moi un maître de vie, j'ai eu un petit peu de difficulté parce que le Père Marie-Joseph n'entre pas facilement dans des catégories bien nettes. Son génie et sa grâce sont d'abord pratiques. C'est un maître de vie. C'est un père, au sens le plus fort du terme. Je ne pense pas qu'un père de famille fasse une théorie sur ce qu'il va faire dans sa famille. Il exerce sa paternité. C'est donc au niveau de la vie, d'un chemin concret, qu'on le rencontrait. Mais je retiens quand même quelques petits points. Alors je dirai certainement pas tout, Je précise aussi que les citations que je donne ici sont des citations de ce petit cahier du noviciat où j'ai recopié les notes que j'avais prises. Donc c'est des notes que j'ai prises. Hein. C'est peut-être pas forcément exactement ce que le Père Marie-Joseph a dit. Alors comme JF, j'ai appris du Père Marie-Joseph à faire ma prière du matin. Là, la prière du matin, c'est quelque chose d'important. Il y tenait beaucoup et y revenait souvent. Et d'ailleurs, c'était quelque chose de très structuré. Il fallait commencer d'abord par « Au nom du Père, du Saint de Croix », qu'on chantait « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, etc. Seigneur, mon âme t'adore, par les clartés de l'aurore, béni soit Dieu, créateur de soleil qui luit. » Donc, le signe de la croix est la louange pour la création et pour le jour, le soleil qui luit. Ensuite, il y avait la prière des enfants de Fatima, donc entrer en contact avec Dieu par la foi, l'espérance et l'amour, les vertus théologales. Mon Dieu, je crois, je vous adore, j'espère, je vous aime. Mon Dieu, je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas. Et puis, il y avait aussi la prière du Père Vitricius Weiss, Seigneur, donne-moi de t'aimer d'un amour fort et brûlant. Cette résolution pour la journée de placer sa vie dans l'amour, de faire tout sous le regard de Dieu amour. Et puis il y avait encore le Notre Père, et puis la prière bien sûr à la Vierge Marie. Et c'est encore comme ça que je me réveille chaque matin, donc ça veut dire que ça marche même pour un carme, vous voyez. Voilà, c'est une illustration de vous voyez, cette grâce du Père Marie-Joseph qui est pratique. C'est pas des grandes théories, c'est comment on va faire sa prière du matin. Et il y a quelques jours, il y a trois jours, j'ai reçu comme une espèce de confirmation de ça. Alors, je vous raconte cette petite histoire. C'est, je confessais des enfants, et quand je confesse des enfants, je prends toujours un peu le temps au début de faire connaissance, de dire quelques mots. Et je demande à une petite fille qui s'appelait Héloïse, une toute petite, et je lui dis, si tu voulais demander une grâce au bon Dieu, qu'est-ce que tu demanderais? Qu'est-ce que tu veux que mon Dieu te donne? Et elle me dit, faire ma prière du matin. Alors ça m'a intéressé parce que évidemment moi ça me rappelle le Père Marie-Joseph. Et je lui dis, et pourquoi c'est vraiment ça que tu veux demander? Pourquoi c'est si important? Elle me répond, parce que ce soit une bonne journée, pour que la journée soit bonne. Alors évidemment, ça peut paraître très insignifiant, mais l'enfant il a le sens de l'essentiel. Et l'objectif, c'est de passer que la journée soit bonne. Et j'entendais bien, et je me suis bien gardé de poser la question, j'entendais bien derrière qu'elle me disait, et demain et le lendemain matin, je recommence. Voilà. Vous voyez, la mesure de notre sainteté, c'est la mesure du jour d'aujourd'hui. L'horizon de ma sainteté, l'espace de ma sainteté, c'est à partir du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. De la prière du matin à la prière du soir. C'est pas demain, c'est pas... Bien sûr qu'il faut prévoir les choses. Bien sûr qu'il faut avoir une mémoire aussi pour porter le passé. Mais aujourd'hui. Et si le Père Marie-Joseph tenait tellement à sa prière du matin, c'est parce que la sainteté du jour est quand même beaucoup mieux engagée quand on fait bien sa prière du matin. Un autre élément que j'ai appris de lui... Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé, donc il va falloir me dire... D'accord, faites-moi signe. Un autre élément, c'est la foi et l'amour, mais enracinés en nous. La foi n'est pas une affaire de sentiments, mais de convictions. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue de lui, et quand j'étais jeune, ça m'a marqué. Je prends quelques phrases que j'ai notées dans mon cahier de JF. Les jeunes font du religieux, mais à leur goût. Il ne s'agit pas de bricoler, mais de connaître la vérité. Et quand il disait la foi est une affaire de conviction, il pouvait dire aussi, le Père Marie-Joseph n'est pas un fanatique, mais un convaincu. Quand il dit ça avec douleur aussi, parce que il y avait parfois des manières de le juger qui étaient un petit peu dures. Et il dit non, moi je suis pas un fanatique, mais je suis un convaincu. Oui. La foi, je veux qu'elle soit enracinée. Et pour cela, il nous demandait d'avoir des raisons de croire. Cultiver les raisons de croire, pas seulement sur le sentiment. C'était pareil au niveau de l'amour. Il disait par exemple, le sentiment ne fait pas la valeur et le poids de l'amour en nous, c'est la volonté libre. Et il disait une parole que j'ai notée plusieurs fois, donc qui revenait et qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai entendue. L'homme ne vit et n'existe que dans la mesure où il aime et où il est aimé. Et puis il le disait d'une autre manière, quand il disait « celui qui n'aime pas n'existe pas ». Ça m'a beaucoup frappé parce que quand même, bon, on va pas s'anéantir en poussière. Mais bien sûr, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas au niveau de la constitution de l'homme et dans son être. La véritable existence de l'homme est dans son amour. Et c'est pour cela qu'il vaut la peine de l'approfondir. Est-ce que je vis l'amour en vérité jusqu'à la croix? Parce que l'amour qui ne se donne pas n'est pas de l'amour. Vous voyez, cette exigence par rapport à la foi et l'amour, moi je l'entends comme le désir chez lui que notre relation à Dieu soit une relation enracinée, qu'elle ne soit pas superficielle, qu'elle soit plus profonde que l'émotion religieuse et la piété sensible. Je pense que c'est exactement cela qui était dans la formule, une formule assez célèbre du Père Marie-Joseph, et je crois qu'il faut retenir de lui, « Prenez le bon Dieu au sérieux ». Voilà, prendre le bon Dieu au sérieux, ça veut dire avoir avec lui une relation qui soit plus profonde que les sentiments. Cette guerre contre le sentimentalisme, elle me touche chez lui parce qu'il était artiste, donc quand même, le sentiment avait une place. Mais une place dans cet art qui conduit à Dieu et non pas dans la superficialité. Lié à cela, un autre élément aussi, comme JF, c'est la formation de l'intelligence à la vérité, l'exigence de la vérité. Alors ça, c'est extraordinaire, ça... Vraiment, ça m'a marqué. L'esprit est fait pour chercher le vrai, non pas pour suivre les sentiments, pour réfléchir dans la lumière de la foi. Il voulait que nous soyons vrais et que nous pensions correctement. Alors, moi, j'ai pas connu les sessions de philosophie là, vers lesquelles il envoyait les parents à Saint-Avold parce que j'étais pas de cette génération-là, mais ça m'a marqué quand même. Et l'insistance sur l'humilité. Il disait par exemple « Ouvrez vos cœurs à la vérité. Pour l'ouvrir, il faut être humble et prier. Il n'y a que les humbles et les humbles qui cherchent la vérité qui soient objectives. Priez pour être des artisans de lumière et de vérité. Sinon, vous serez des poupées de piété et je n'en veux pas. » Je vais revenir tout à l'heure sur le caractère du Père Marie-Joseph. Et là, les poupées de piété, ou alors par exemple, Jésus n'a pas besoin de comédiens, mais de gens qui cherchent la vérité par la grâce de Dieu. Donc, pas seulement une vérité dans la tête, mais en acte. Que le bon Dieu vous préserve de jouer la comédie. Lié à cela, un autre saint Paul, qui revenait aussi souvent chez lui, je suis frappé au passage de la proximité du Père avec saint Paul. Les jeunes ont fait un spectacle sur saint Paul il y a pas longtemps, mais il faudrait travailler vraiment cette familiarité du Père qui avait beaucoup beaucoup de phrases de saint Paul. Je sais à qui j'ai mis ma foi. Je sais à qui j'ai mis ma foi. Ce travail de l'intelligence et de la vérité pour fonder la foi. Je termine encore avec deux petites choses pour comme maître de vie. L'Eucharistie, l'amour de l'Eucharistie. On va en entendre parler encore ce soir, donc j'insiste pas, mais alors là, c'était vraiment, il n'y en a jamais assez, quoi. Là, on a beau faire, on ne sera jamais à la mesure du don. Et donc, il revenait sans cesse, et quand je relis mes notes, on voit bien que toute la dernière année de sa vie, qui est dominée par la prière Adorotée qu'il avait mis en musique, qui est présente aussi dans son testament, toute la dernière année de sa vie est vraiment une insistance sur la communion au Christ eucharistique. Par exemple, « Réjouissez-vous, croyez profondément, ne vous lassez jamais de l'hostie, de la communion. Que votre vie soit une vie eucharistique. Demandez cela à la Sainte Vierge. » Il parlait au JF. « Je veux que vous arriviez à cet amour de l'Eucharistie. Que l'Eucharistie devienne le centre, le sommet de votre vie. Depuis le collège, lors des adorations nocturnes, j'ai toujours demandé qu'il soit le centre, le sommet, le cœur de ma vie. » Ça, c'est clair que l'expérience de l'adoration eucharistique comme centre le plus central de notre vie, c'est une expérience qu'il a faite au collège quand il est, parce qu'ils nous ont parlé souvent de cette expérience qu'il a faite là, quand il était adolescent. Ça a certainement dû marquer un point de départ. Là, il y a un moment je pense, de grâce tout à fait unique chez lui. Et puis, une dernière dimension que j'appellerais le combat spirituel, même s'il ne l'appelait pas comme ça. Alors, l'avantage avec le père Marie-Joseph, c'est que quand on l'écoutait, au JF, on se faisait pas beaucoup d'illusions sur la réalité du monde d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de main morte. Bon. De nos jours, la vérité est souvent crucifiée. La télévision n'est pas au service de la vérité. L'amour qu'on montre à la télé, c'est une trahison, etc., etc. Donc il dénonçait beaucoup, vraiment avec une grâce prophétique, là. Et, bon, par exemple, à la JF, par rapport à l'affectivité, ne tombez pas dans les aberrations des jeunes modernes qui essayent de s'attirer par des artifices. Cela ne tient pas. Le seul moyen d'y arriver, c'est de vous sanctifier. Bah, quand même, si on disait ça dans les lycées ou dans les collèges, ça ferait peut-être réfléchir. Mais ce combat spirituel, ça passait beaucoup par le démon. Alors, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a parlé autant du démon. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'en parle jamais, même dans les sermons. Et c'est, à mon avis, dramatique. Mais chez lui, c'était pas du tout, la peur, machin, enfin... Harry Potter, enfin bref, c'était pas les effets spéciaux, voilà. Vous voyez, c'était vraiment le sentimentalisme, non, le romantisme. Mais il y a un enjeu et il y a un vrai combat. Si vous saviez comme le démon vous déteste, surtout vous les jeunes, si vous devenez de bons foyers et de bons consacrés. Aujourd'hui, nous vivons un temps où Satan a mis toutes ses machines en route, se déchaîne avec une frénésie et un raffinement incroyables. Mais l'Esprit Saint est à l'œuvre. Moi, je suis vraiment reconnaissant au Père Marie-Joseph, comme jeune, comme ado, d'avoir entendu ça, parce que je savais à quoi m'en tenir. Je savais qu'on n'est pas dans Walt Disney, quoi. Et d'où, vous voyez, cette droiture du cœur. Parce que la droiture du cœur est liée à la vérité, qu'on a déjà entendu, mais aussi se méfier de tout ce qui est trouble, de tout ce qui n'est pas transparent. J'aime bien parce qu'il faisait un geste. Hein. Le Père Marie-Joseph parlait souvent par geste. Et alors elle disait, le démon c'est toujours trouble comme ça. Quand ça fait comme ça, c'est pas bon. Ayez la droiture du cœur. La simplicité, la droiture du cœur. Soyez des enfants. Hop, ma feuille. Mais c'est bon, j'ai fini. Voilà un petit peu ce que je retiendrai. J'ai rencontré quand j'avais 10 ans. J'ai appris à le connaître un peu plus ensuite comme JF, et puis il est mort quand j'avais 19 ans, donc j'ai pas connu beaucoup plus que l'adolescence. Si je devais parler de sa personnalité, d'abord la force et l'intensité de son tempérament. Il y avait beaucoup de choses qui vivaient avec intensité. Les grands enthousiasmes. Par exemple, j'ai noté quelque chose. Que vous ayez des cœurs lumineux, brûlants, c'est de cette flamme que le monde a besoin, pas de la flamme olympique. Vous êtes destinés à être la gloire de Dieu. Louez-le, soyez plein de reconnaissance. Les grands enthousiasmes. Quand il parlait des sujets qui intéressaient Saint-François, la famille, l'ordre séculier. Les grandes colères. Par exemple, je suis trop fier et trop intelligent pour m'agenouiller devant l'absurde. Je suis trop fier et il faut que vous le soyez aussi. Ne vous laissez pas réduire à l'état d'idiot, d'insensé, de ridicule. Ne vous mettez jamais à genoux devant l'absurde, jamais. Et alors quand il disait ça avec sa belle voix de basse, là, il tapait sur la table. Et quand il était à l'hôtel, il tapait sur l'hôtel. Et c'était très impressionnant. Et je me disais, waouh. Et vous voyez, parce que c'est un père, parce qu'il y a un enjeu de vie. C'est pas, là, c'est pas du sketch. Lié aux grandes colères, les grandes tristesses. Quand je vois le monde dans lequel vous êtes plongé, quand je vois ce qu'on peut parfois vous faire entendre, ou par exemple les attaques contre le pape, c'est vraiment, ça le rendait triste, quoi. les grandes ferveurs quand il parlait à la Vierge Marie, quand il nous parlait de Jésus. Et j'aime bien vous le dire parce que ça rentre vraiment en composition, en unité avec aussi la grande douceur, la grande bonté, son écoute, telle qu'elle paraît par exemple sur cette image où on voit bien cette bonté, cette douceur. Mais il faut savoir que c'était pas une bonté bonasse, quoi. Hein, c'était pas du tout mièvre, quoi. Il y avait une très grande intensité, quoi. Quand il prend la parole, attention, hein, ça déménageait. Un autre aspect encore de sa personnalité, toujours lié, je pense, à sa mission de paternité, c'est une très grande attention à tout ce qui touche à l'humain. Et ça m'impressionne beaucoup. La connaissance profonde de l'homme. À mon avis, c'est quelque chose qu'il a reçu en partie de ses études, puisqu'il était professeur d'histoire de l'Église ancienne, les premiers siècles de l'Église. Et quand il nous disait, par exemple, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », le grand refrain du Père Marie-Joseph, ça c'est une citation d'Irénée, des gens qu'il a fréquentés comme étudiant puis professeur. Une largeur d'horizon, du plus spirituel au plus quotidien. Donc en passant, moi, ça m'impressionnait beaucoup de voir qu'il pouvait à la fois faire un discours très mystique, quoi, très spirituel, et en même temps parler très sérieusement du syndicalisme chrétien, de l'engagement des membres de la fraternité dans les associations familiales catholiques, les combats sur le terrain. Et il se tenait vraiment très au courant. Il lisait les journaux, comme l'a dit Michel Bourg, dans une récente circulaire, là, il regardait, quand on allait chez lui, il regardait beaucoup la télé pour voir ce qui se passait. Et alors, parfois, ça donnait des choses... qui entrait, si vous voulez, directement dans son enseignement. Alors, par exemple, il y a tout un moment où il nous a parlé de la vraie flamme, parce que c'était les Jeux Olympiques d'hiver, je ne sais plus où, en Isère, Albertville, voilà. Et alors, vous savez bien que dans ces cas-là, pendant 6 mois, on voit dans toute la France les enfants qui portent la flamme olympique. Bon. Et lui, il voyait ça, et il y a quelque chose qui bouillait en lui, il dit, mais c'est pas la flamme olympique, c'est la flamme de l'amour séraphique de Saint-François. Alors du coup, il y a un petit écho dans le chant, là, séraphique François. Donne-nous cette flamme pour embrasser nos cœurs, c'est cette flamme qui n'est pas la flamme olympique. Bon, alors, on avait compris que là... Il y a plus que la flamme olympique. Attendez, j'ai là. Oh, oui, c'est ça, la flamme olympique. Et alors, un autre moment, alors là, c'était cocasse aussi. Il avait eu le malheur de tomber sur l'élection de Miss France. Et alors, pendant six mois, à chaque fois, je vous avais dit, si j'envoie l'une d'entre vous, voilà. Qui a le malheur d'apparaître dans ces trucs-là, vraiment, c'était la mise en garde pour toutes les jeunes filles JF de ne pas mettre les pieds à Miss France. Mais évidemment, ça peut faire sourire, mais être au plus proche de ce que vit l'homme aujourd'hui. Et là, là, il y a encore quelque chose, vous voyez, de sa personnalité hein, et de sa responsabilité. Ça, on ne peut pas se permettre d'aborder la réalité humaine aujourd'hui. À la légère, parce qu'il y a un enjeu spirituel très profond. Et au point, moi je suis très impressionné par l'élaboration de son anthropologie, pour parler avec des mots compliqués, mais donc cette science de l'homme, l'anthropologie chez Père Marie-Joseph, elle est très 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 évoluée. Et il y aurait un travail à faire, à mon avis, très intéressant, d'investigation pour dégager les fondements anthropologiques de l'enseignement du Père Marie-Joseph. Un dernier aspect de sa personnalité, c'est le fait qu'il était fils. Et j'insiste parce que depuis le début, je vous dis qu'il est père, et maintenant je vous dis qu'il était fils. Et il le disait. D'abord, comme j'ai déjà dit, il était fils de ses parents. Il assumait cette filiation de ses parents. Voilà. Être fils de ses parents et être porté avec une responsabilité de fils, l'héritage qu'on a reçu. Ensuite, il était fils de l'Église. Il faut aimer l'Église parce qu'elle est notre mère. Et il était fils de Saint-François. Je ne suis pas un imbécile, je suis fils de Saint-François. Pour parler justement un peu de ces aberrations qu'on voit, et lui il réagit comme fils. C'était impossible pour lui, on le sentait bien, de se passer de ses liens de vie. Sinon il était mort, sinon il était coupé de ses racines. Et c'est comme ça que je comprends son attachement au Saint-Père, dans ces années qui ont quand même été exigeantes à ce niveau-là. Ou ses attachements de toutes les fibres de son cœur à l'ordre de Saint-François. Ça n'a rien à voir avec une idéologie, avec un réflexe sécuritaire, frileux, avec, vous voyez, suivre le troupeau, voilà, être dans le... Non, non. C'est tous ces attachements, de toutes les fibres de son être, c'est quelque chose qu'il avait choisi et qu'il cultivait et qu'il nous transmettait. Ce choix réfléchi et profond, parce que c'était toujours pareil, une question de vie, un enracinement vital comme fils. Pour illustrer ça, je prends juste cette petite phrase qu'il disait au groupe Saint-Jean, donc le groupe des consacrés, des séminaristes. J'aime beaucoup cette phrase. Si vous devenez de vrais fils de Saint-François, vous serez de bons chefs de file. Il nous demande d'être des chefs de file. Il nous demande d'être des pasteurs, ceux qui marchent devant. En gros, il nous demande d'avoir la vraie paternité qu'un consacré et un prêtre. Mais il nous le demande à la condition que nous soyons fils. Si vous devenez de vrais fils de Saint-François, vous serez de bons chefs de file. Et là aussi, avec le recul maintenant... Évidemment, j'entends tout ça avec ma charge aujourd'hui, puisque je suis formateur des jeunes frères, et donc que je suis pédagogue, si vous voulez, donc je peux pas ne pas m'empêcher de me dire « Ah, mais voilà les choses que je pourrais dire à mes jeunes frères !» Mais quand même, devant le désarroi de la transmission, de l'éducation et de la famille aujourd'hui, je crois que ce jeu, cette alliance, cet alliage, entre la filiation et la paternité, le fait d'appuyer sa propre mission de paternité sur une filiation vécue, c'est, je pense, l'un des ressorts les plus puissants pour l'avenir. Et en tout cas, c'est quelque chose qui s'observe d'une manière très impressionnante chez Père Marie-Joseph. Je termine en parlant un peu. Alors, moi, j'ai eu la grâce d'entendre l'appel... Donc, pardon, je termine ma phrase en parlant un peu de ma relation peut-être plus personnelle avec le Père Marie-Joseph. J'ai eu la grâce d'entendre l'appel à la vie consacrée très très jeune, bien avant de connaître la fraternité. Et du coup, d'être accompagné dans cette vocation au moment un peu critique de l'adolescence, jusqu'au moment où je me suis consacré à Dieu, dans le groupe Saint-Jean, donc dans la fraternité. Ma première... consécration à Dieu, elle s'est faite dans la fraternité. Et ensuite seulement au Carmel. Et donc, du coup, c'était un peu les dernières années du Père qui le savait, voilà, il nous donnait un peu tout ces trésors, les trésors les plus profonds de son cœur. Et la première chose, moi, qui m'a frappé chez lui, c'est qu'il avait de l'ambition pour moi, mais pas dans le sens orgueilleux. Il prenait très au sérieux le dessein de Dieu sur moi. C'était quelque chose de sérieux. Et il m'engageait à ne pas traîner, à me laisser porter par la grâce qui m'attirait et à y entrer sans avoir peur. Qui veut aller loin doit partir tôt, disait-il. Ensuite, c'est peut-être ce qui m'a le plus touché dans ce qu'il me disait, c'est tout l'enseignement sur la confiance qui puisait à la fois à Saint François et à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La confiance en Dieu, la confiance en Jésus, l'amour de Jésus. Ça, c'est le cœur de ma vie consacrée telle qu'il me l'a apprise. Une vie consacrée, c'est une vie qui est tout entière placée dans la confiance et l'amour de Jésus. Et tout le reste vient ensuite. Et la confiance et l'amour de Jésus vécu alors dans l'adoration du sacrement pour lui. Et puis lié à ça, un autre aspect fondamental, c'était celui de la petitesse. Humble et petit. Être toujours comme un enfant. Il revenait beaucoup au groupe Saint-Jean, puisqu'on était séminaristes. il fallait vraiment qu'on vive notre grâce de sacerdoce comme des tout-petits, quoi. Et pour ça, il nous donnait l'exemple de Jean-Paul II. Exemple de cette plus grande humilité dans la plus grande charge de l'Église. Et pour finir, pour conclure, mais ce que je retiendrai, en plus de tout ce que je viens de vous dire, ce qui me porte aujourd'hui, c'est cet amour passionné de Dieu. Voilà. Tout simplement. Une passion d'amour pour Jésus. Ça vaut la peine. Une passion d'amour pour Jésus qui vaut la peine de ne vivre que de lui. Une passion d'amour pour Jésus qui vaut la peine de tout donner. Et ça m'aide vraiment. C'est ce que je veux aujourd'hui transmettre à mes jeunes frères étudiants, parce que au carême aussi, on a la passion d'amour pour Jésus. Mais avec, vous voyez, cette chaleur humaine quoi, qu'avait le Père. Et puis, ça m'aide aussi dans ma vie religieuse, qui a ses joies, mais aussi ses exigences. Et quand la vie est exigeante, et c'est vrai pour chacun de nous, qu'on soit en famille ou... Quand la vie est exigeante, qu'elle est parfois une épreuve, cette passion d'amour pour Jésus, c'est vraiment ce qui nous porte finalement. C'est là où on revient. C'est ce centre dans lequel on se retrouve et où on peut puiser la force de porter le poids du jour qui est parfois lourd. Et c'est aussi quelque chose qui me nourrit dans ma vie apostolique et dans cette grâce de la musique dont je vous parlerai ce soir. Voilà. Merci beaucoup.